m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
avec courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette première de Restons Courtois. Je dis première parce que pour moi, vous l'avez remarqué, la voix est différente. Désormais, ce sera à votre serviteur qu'il reviendra d'animer tous les vendredis soirs ce rendez-vous hebdomadaire de Restons Courtois, un rendez-vous en partenariat avec Boulevard Voltaire. J'ai le grand honneur, la grande joie de remplacer un éminent confrère, anciennement collègue à Boulevard Voltaire, de Marc Baudrier. Et je vous ai réservé une surprise aujourd'hui puisqu'il sera avec nous au micro de Radio Courtoisie pour Restons Courtois. Alors, c'est pas tout à fait une première pour moi, puisqu'il y a quelques années, dans les années 2012-2013, j'ai déjà animé, peut-être vous souvenez-vous de ma voix, ou en tout cas de la qualité des interventions de mes invités, je dirigeais le libre journal des scouts le dimanche matin, une fois par mois, mais il y a une quinzaine d'années, donc cela remonte un petit peu. Voilà, alors avec moi, autour de cette table, nos habituels chroniqueurs prêts à porter l'estocade, Gérard Gachet, journaliste, ancien élu du 16e arrondissement, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonjour cher Gérard.
Bonjour, j'arrive.
Avec nous, Damien Chalamel, avocat en droit de la propriété intellectuelle. Bonjour cher Damien.
Bonjour cher Yves-Marie, chers auditeurs.
De retour après cet été suffocant.
Voilà.
D'ailleurs, c'est de cet été suffocant que nous allons parler
dispo.
Avec Marc Baudrier, parce qu'il nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle avant cela, chers auditeurs, que vous pouvez nous appeler au 01 46 51 00 85. Vous pouvez aussi nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. Et nous tâcherons bien évidemment d'y faire écho dans la mesure du possible. Donc au programme, ce soir, nous parlerons, nous ferons un petit peu un bilan de cet été, suffocant, le disais-je, et nous évoquerons la rentrée explosive que nous avons devant nous. Et comme il nous manquait déjà, notre grand invité est avec nous, Marc Baudrier, rédacteur en chef, délégué chez Valeurs Actuelles, et rédacteur en chef du service économie. Bonjour cher Marc.
Bonjour Yves-Marie, bonjour à vous chers auditeurs, que je suis heureux de retrouver.
Absolument.
Après cet été, ce long été.
Mais oui, absolument. Donc avec vous, nous évoquerons vos nouvelles missions à Valeurs Actuelles, les ambitions du magazine que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien. Nous ferons un tour de l'actualité donc estivale et les défis de la rentrée. En seconde partie d'émission, nous évoquerons les révélations de Boulevard Voltaire concernant le meurtre de Quentin Derenque avec le journaliste Jean Bexon, donc de la rédaction de Boulevard Voltaire, qui nous rejoindra. Et en troisième partie d'émission, nous aurons notre habituel clin d'œil culture que vous avez instauré, cher Marc. Avant tout, à tous les trois, je vais demander de faire ce petit traditionnel tour d'actualité. Alors du coup, récent de la semaine, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui a le plus impacté, selon vous, cette actualité de cette semaine, cher Damien?
Alors, j'ai cru que vous alliez me demander celle de cet été. Alors vous en avez réservé une de cet été.
Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Alors, on y reviendra sur l'été.
Mais alors, je peux vous parler de cet été, parce que celle qui m'a marqué dans la torpeur du mois d'août, c'est l'entrée en vigueur, après la décision du Conseil constitutionnel, le 19 août dernier, de la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Donc c'est le progressisme en acte, hein, qui a dit qu'Emmanuel Macron n'avait pas de constance idéologique. En réalité, sur ces questions-là, il en a une. Après la PMA pour les enfants sans père mais avec deux mères, eh bien voilà la mort en face, comme il le dit ou il le disait pompeusement. Alors, j'ai regardé sur cette loi. Alors, il y a trois réserves d'interprétation, mais qui sont assez dérisoires par rapport au phénomène. Mais pour que nos auditeurs prennent vraiment, réalisent réellement ce vers quoi l'on va, dans une société comme le Canada, c'est actuellement, qui est le plus avancé en la matière, c'est 5% des décès qui sont le fruit du suicide assisté, essentiellement. Hein. 5% des décès en France, ça fait 32 000 personnes par an. C'est la taille d'une ville comme Mâcon, Agen, Nevers, Beaune. Voilà, l'une ou l'autre de ces villes. Hein. Donc ça fait 32 000 personnes en moyenne, si on escompte que le taux de suicide assisté serait grosso modo le même que celui en vigueur au Canada. Donc c'est vraiment un mouvement sociétal d'ampleur, hein, déclenché par cette funeste loi, et qu'aucune majorité, je fais le lien avec l'actualité, hein, aucun parti susceptible de l'emporter, aucune famille susceptible de l'emporter, n'entend abroger, pas même M. Retailleau à ma connaissance.
Non, et d'ailleurs c'est une marque certainement du macronisme, un héritage, ce progressisme avancé, une des rares lois qu'Emmanuel Macron, dont Emmanuel avec Macron celle, pourra
celle,
se targuer.
Voilà, avec celle de la PMA pour les enfants sans père. Donc en fait, Macron, c'est effectivement le grand remplacement, le grand déclassement, et puis je dirais le grand décadent. Voilà, c'est ce que je retiendrai de l'actualité, mais aussi de ces 10 ans de macronisme triomphant.
Et c'est d'une grande tristesse, c'est effrayant. Voilà. Cher Gérard, qu'est-ce qui vous a inspiré?
Ce qui m'a inspiré, c'est un événement dont on va certainement reparler pendant l'émission. Celui de l'arrivée comme chroniqueur sur France Inter de Charles Sapin, le nouveau directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. On reviendra certainement sur les réactions que cela a provoquées chez les syndicats de journalistes. Mais j'ai quand même extrait une phrase politique qui en dit long, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Il a déclaré, je le cite entre guillemets, « Le service public s'aligne à son tour ». On est presque contraint à l'exil radiophonique. Vous rendez compte? Contraint à l'exil radiophonique. Mais parce qu'un journaliste de droite pourrait s'exprimer, ou a commencé déjà à s'exprimer sur France Inter, sur des sujets d'ailleurs essentiellement économiques. Parce que la gauche pourrait voir légèrement, très légèrement, de façon infime, pourrait voir légèrement entamé le monopole qu'elle détenait depuis une cinquantaine d'années sur l'audiovisuel public. Ben écoutez, quand on entend ça, des phrases comme ça, on se dit que finalement, Charles Alloncle et sa commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public étaient bien en dessous de la vérité.
C'est ahurissant, c'est déposer sur un plateau, c'est offrir à Charles Alloncle une victoire sidérante. Une bien triste victoire d'ailleurs, mais on aura effectivement l'occasion d'y revenir. Marc, est-ce que vous avez quelque chose là qui vous a inspiré sur votre première prise de parole en tant qu'invité.
Qu'invité de cette prestigieuse émission.
Joyeuse équipe, joyeuse bande, comme vous aimiez
alors,
à le dire.
Alors, d'abord, je voulais dire qu'il y a deux sujets dont je ne pourrais pas parler durant cette émission, parce qu'on a convenu avec la rédaction en chef de Valeurs Actuelles de ne pas nous exprimer pour l'instant, c'est précisément l'affaire Charles Sapin et c'est la nouvelle formule en préparation de Valeurs Actuelles, parce que tout simplement elle n'est pas encore assez aboutie pour qu'on puisse en parler.
Mais c'est déjà sympathique de savoir qu'il y a un projet à venir.
Voilà, bien sûr.
On peut savoir dans quel sujet on le connaîtra mieux, ce projet.
Bah, écoutez, avant la fin du siècle, c'est certain. non, mais très vite, c'est une question de semaine. Hein. Moi, ce que j'ai retenu, c'est l'affaire Ceuta, vous savez, cette enclave espagnole au Maroc, c'est ça, et qui donc a vu l'afflux de migrants absolument considérable. Ça a été très révélateur, je crois, non seulement de la pression migratoire, mais aussi des mensonges qu'on oppose à cette pression migratoire dans les partis de gouvernement. Et je pense évidemment à la réaction de Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui a expliqué en long, en large et en travers
que tous les migrants étaient repartis chez eux avec un baluchon et qu'il ne restait plus personne. Ce n'est pas tout à fait le sentiment, apparemment, qu'ont les habitants de Ceuta.
Les locaux.
Qui, eux, ont manifesté en masse tout à fait récemment. Et non seulement eux, mais aussi des Espagnols. Et donc, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit bien que... On le voit aussi dans les sondages en France, hein, mais que le ras-le-bol face à l'invasion migratoire en France monte à l'échelle du ras-le-bol dans les populations. Quoi.
Est-ce que l'espoir peut remplacer l'inquiétude ? L'espoir de la réaction par rapport à l'inquiétude de voir, effectivement, comme vous l'évoquiez, cette invasion qui semble être infinie.
Je pense qu'on peut avoir quand même l'espoir, j'espère en tout cas, qu'on peut avoir l'espoir qu'un jour, les peuples porteront au pouvoir des personnes assez courageuses pour régler ce problème, ou que les dirigeants qui sont en place finiront par écouter cette voix qui est de plus en plus majoritaire dans les différents pays. Hein. Et donc, y a d'ailleurs des gouvernements qui s'installent, y compris en Europe, hein, je pense à l'Italie par exemple, notamment sur ces thématiques-là, du surcroît de l'immigration et du côté insupportable que ça peut entraîner pour les peuples. Et donc là, on a une illustration qui me semble quand même assez impressionnante et un nouveau degré de à la fois d'invasion et de ras-le-bol des populations qu'ils manifestent de manière extrêmement forte. Je crois que nos dirigeants feraient bien de regarder ça de très très près et d'essayer d'en tirer des conséquences, parce que c'est en Espagne, mais ça pourrait être demain en France et après-demain dans toute l'Europe.
Gérard Gachet.
Oui, Yves-Marie, ça pourrait d'autant plus être demain en France que moi, ce qui m'a frappé à propos des mensonges de M. Sanchez, c'est qu'ils ont été repris en chœur par toute la grande presse française, justement, alors peut-être à l'étranger aussi, j'en sais rien, mais comme quoi, 24 heures après, ils étaient tous rentrés chez eux. Alors c'était formidable, on avait vu la ruée la veille, et on se disait quand même...
C'était miraculeux.
Même s'ils avaient voulu repartir aussi vite, ils auraient du mal. Et puis petit à petit, on a commencé à lui dire, bon, d'abord il y a les mineurs qui sont restés, parce qu'on ne peut pas les renvoyer, donc ils restent, etc. Puis finalement, on aperçoit à travers... non seulement les manifestations, mais les vidéos qui sont tournées par les habitants de Ceuta et qui sont diffusées. Et on voit bien qu'il y a des migrants installés un peu partout, la nuit, qui se battent entre eux, qui... Bon,
il y a une explosion des violences et des agressions sexuelles.
Des agressions sexuelles en plus, etc. Enfin, on voit bien que tout ça était un énorme mensonge. Je ne sais pas, alors je suis incapable évidemment de vous dire combien sont repartis, combien sont restés, mais il est certain que tous ne sont pas repartis, loin de là.
C'est évident. Alors moi, je voulais évoquer avec vous un petit fait divers que j'ai remarqué en passant comme ça sur le réseau social X. J'ai vu passer une information qui m'a sidéré et que j'ai trouvé extrêmement révélatrice. Depuis le 15 août, une partie de la ville de La Roche-sur-Yon est dans le noir. Pourquoi ? Parce que en 3 semaines cet été, 500 réverbères ont été vandalisés dans la ville. Et c'est-à-dire que donc les réverbères les plus loin dans les agglomérations qui ne sont pas surveillés par des caméras, les câbles, des kilomètres de câbles de cuivre ont été dérobés. Coût pour la collectivité, 150 000 euros. Temps de la réparation, 4 à 5 mois. Enfin, j'ai trouvé cette information complètement sidérante, complètement révélatrice de la dérive tiers-mondiste vers laquelle la France se dirige, parce qu'on est, c'est complètement sidérant. Alors, on est en train de, le maire, que je voyais réagir, est en train de nous expliquer que pour contrer ces délinquants, maintenant, les trappes qui permet aux agents d'entretenir le matériel, ces trappes maintenant vont être en hauteur, de telle sorte qu'on ne puisse plus voler le matériel. Donc du coup, effectivement, ce sera du temps passé par les agents, parce que j'imagine qu'on travaille moins bien et moins vite en installant une échelle à 3 mètres de haut ou un élévateur. Mais c'est complètement sidérant de voir ces petits détails qui s'accumulent sans cesse de la dégradation du climat actuel en France. Gérard Gachet.
Vous avez peut-être remarqué que depuis quelques années, il y a un certain nombre d'arrivées d'autoroutes sur Paris, sur la région parisienne, qui ne sont plus éclairées. Les tronçons terminaux de ces autoroutes ne sont plus éclairés. Et pourquoi ? Parce que d'il y a quelques années, mais notamment moi je me souviens d'avoir eu ce dossier, enfin vu passer ce dossier lorsque j'ai été dans le passé porte-parole du ministère de l'Intérieur, vous aviez des kilomètres de câbles qui avaient été enlevés, extraits. Ensuite, qu'est-ce qui se passait ? Ces câbles étaient emmenés souvent dans des communes assez lointaines, de banlieues assez lointaines, où on les faisait brûler pour fondre la gaine et récupérer le cuivre à l'intérieur. Le but étant de récupérer le cuivre qui vaut très cher, qui se vend très cher. Et d'une façon générale, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était d'ailleurs, il y a eu quelques arrestations, c'était la communauté des gens du voyage qui étaient les grands spécialistes du vol de cuivre à travers les câbles d'éclairage de route ou d'autoroute.
Absolument, absolument.
Ou urbain.
Édito désormais. Marc, est-ce que vous vouliez réagir ?
Oui, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que petit à petit, on bascule dans une société qui est soumise au pillage. Voilà, on retourne au temps du pillage. Donc, ça fait d'ailleurs la fortune des entreprises de sécurité dans notre cher pays. Moi, lorsque j'étais enfant, j'habitais à la campagne parce que je suis agriculteur et on partait toute la journée, on laissait la porte ouverte. On n'avait jamais, ouverte, pas fermée à clé, je veux dire. Et donc, personne ne songeait à fermer la porte à clé. Ça servait à rien, personne, il n'y avait absolument aucun risque. Ça a duré pendant 20 ans, cette affaire-là.
À Paris, il n'y avait aujourd'hui, pas de code à l'entrée des immeubles il y a 50 ans. Il n'y avait pas de code.
Mais absolument, ouais. Il n'y avait pas de code. Et à la campagne, aujourd'hui, même à la campagne, personne, ça viendrait à l'idée de personne de partir, même pendant 10 minutes, sans fermer à clé.
Et la grande question, c'est de savoir si en rentrant de ses vacances, pour les urbains, de savoir s'ils retrouveront leur maison intacte.
Absolument, c'est la grande angoisse de l'urbain qui revient de ses vacances, peut-être aussi du campagnard d'ailleurs, c'est de savoir si son appartement ne va pas être cambriolé. Moi, personnellement, j'ai trouvé le mien cambriolé plusieurs fois au retour de vacances, c'est pas très agréable. Et c'est vrai qu'on arrive à un moment de pillage. Alors, il y en a eu d'autres dans l'histoire de France, des moments de pillage généralisés. Ce sont des périodes très troublées, de décadence, très difficiles pour la vie, pour la population, on y va tout droit.
Qui souvent annonce des guerres civiles.
Qui souvent annonce des guerres civiles ou des reprises en main très brutales. Et donc, il est temps quand même, de s'interroger des raisons pour lesquelles on est arrivé là.
On notera tout de même qu'il y a la modernité a fait des grands pas, puisque désormais vous avez des applications qui vous permettent de suivre ce qui se passe chez vous et des applications de sécurité liées à votre alarme. Donc, on a pas forcément l'impression, parce que je dis ça, c'est arrivé à mes propres parents. On n'a pas forcément l'impression que ces applications vous protègent plus, mais au moins vous êtes au courant en direct de que vous avez des malfaiteurs qui sont rentrés chez vous. Donc vous avez le temps de vous remettre, le temps de revenir chez vous.
Non, mais le succès de ces entreprises et de ces applications en dit long sur l'état d'insécurité et la banalisation de ces cambriolages dans cette France qui n'avait absolument pas l'habitude de ça dans les années 50. Il y avait toujours eu de la criminalité, des grands bandits, des grandes affaires. Ça, pour le coup, c'est pas nouveau. Mais cette criminalité du quotidien qui est la plus terrible à vivre, en fait, pour la population française, elle est croissante d'abord et elle est assez nouvelle.
Absolument. Et moi, je reviens, j'ai eu la chance de passer en Autriche cet été, dans la région du Tyrol, et pour certains endroits, pour acheter vos journaux, le journal est à votre disposition et vous avez une petite tirelire dans laquelle vous glissez votre pièce de 2 ou 3 euros.
C'est vrai, les Suisses font ça aussi. Quand on se promène en Suisse, on trouve des
inimaginable en France.
On trouve des légumes à disposition et il y a une petite caisse, il faut mettre une petite pièce qui corresponde au prix du légume que vous embarquez. Si on fait ça dans les banlieues françaises, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de pièces dans la petite caisse.
Il y aura plus beaucoup de légumes, mais il y aura pas de pièces non plus.
Non.
Allez, édito désormais. Bientôt le lever des couleurs à l'école.
Restons courtois avec Yves-Marie Sevilla et Boulevard Voltaire.
La reconstruction passe par l'école. C'est le message que le maire de Nice veut faire passer en annonçant vendredi 28 août l'installation d'un mât pour, je cite, y faire flotter le drapeau français dans chaque école de la ville dont il a pris les rênes depuis désormais 5 mois. Éric Ciotti souhaite faire vivre concrètement les symboles de la nation au sein des écoles. Dans un communiqué, il affirme que, je cite encore, « l'école ne doit pas seulement transmettre des connaissances, elle doit aussi apprendre aux enfants ce qui unit les Français, leur faire connaître leur histoire et leurs symboles, et leur transmettre l'amour de la France. Jusqu'ici, tout nous semble normal. Il continue, à l'heure où trop de repères communs s'effacent, je souhaite et j'assume de faire de l'école un lieu de transmission du patriotisme et de la fierté d'être Français. » Oui, mais voilà, une initiative qui n'est vraisemblablement pas du goût d'Édouard Geffray, notre ministre de l'Éducation nationale, qui lui juge qu'il n'appartient pas au maire de décider d'une quelconque levée des couleurs qui se ferait en présence de tous les élèves, ni une fois par semaine, ni une fois par mois, ni une fois par jour. Si un mât peut être installé dans les cours, y installer un drapeau français semble peu recommandable. Alors Éric Ciotti a tôt fait de contester des déclarations ahurissantes, je cite, « Je regrette profondément, a-t-il expliqué, ce refus d'organiser une démarche civique simple, destinée à transmettre à nos enfants l'attachement de la France et aux valeurs de la République. » Alors, comment un ministre peut considérer que le drapeau de notre pays ne fait pas partie de l'éducation nationale, finit-il. Donc l'expérience, on le sait, a déjà eu lieu, et elle est en cours dans les écoles, par exemple, privées d'Espérance banlieue. Apprendre à respecter le drapeau, s'identifier à ses couleurs, à ce qu'il raconte de l'histoire de France, de ses grandeurs, de ses drames. Qu'est-ce qui peut bien motiver une telle réticence? De quoi le ministre a-t-il peur? On notera que l'UDR, pour sa part, n'est pas fâché avec l'histoire de France, puisque le parti dirigé par l'allié de Marine Le Pen a lancé cet été une grande série de podcasts consacrés aux figures historiques qui ont forgé le destin de la France, racontées par le député Maxime Michelet, député de la Marne, historien de formation. Le parlementaire est déjà revenu sur les origines de la nation, puis sur l'affirmation de sa puissance en évoquant Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Henri IV, Louis XIV. À l'UDR, le drapeau et l'histoire de France ne sont pas mis dans la poche, ils sont un motif de fierté. Pourquoi, à votre avis, Marc, on a une telle réticence aujourd'hui à mettre en place un éventuel lever des couleurs dans les écoles françaises?
Oui, je suis très frappé, moi, dans ce pays, par la réserve qu'a la population en général, et la gauche en particulier, vis-à-vis du drapeau français. En Suisse, j'ai un frère qui habite en Suisse, il a dans son jardin un mât avec le drapeau suisse, comme tous les Suisses. Et alors, quand je lui dis, mais écoute, t'étais quand même pas plus suisse que moi à l'origine, et t'es plutôt français, et il me dit, mais c'est absolument impossible de ne pas dresser le drapeau suisse dans son jardin quand on habite la Suisse, parce que sinon on était extrêmement mal vu des voisins, et regardé de travers, les gens se demandent pourquoi est-ce que vous ne faites pas flotter le drapeau suisse dans votre jardin. En France, vous faites flotter un drapeau français dans votre jardin, vous voyez tout de suite la réaction des voisins qui sont, enfin en tout cas de certains voisins, elle serait évidemment éminemment hostile et très violemment hostile. Le drapeau en France, on a le droit d'afficher absolument tous les drapeaux, le drapeau de la Jamaïque, celui de l'Europe évidemment, le drapeau anglais, il y en a partout sur des sacs à dos des élèves, le drapeau américain, tous les drapeaux du monde finalement sont les bienvenus en France, sauf un, c'est le drapeau français. Il y a quelque chose d'extraordinaire et on reste encore sur cet acquis qui finira par être renversé, j'espère, un jour. Mais pour l'instant, ça reste encore difficile et quasi provocateur d'afficher le drapeau français quand on est français. Ça me paraît fou.
Gérard Gachet.
Oui, je crois que c'est une affaire beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air. Je n'ai pas dit que le drapeau français n'est pas quelque chose d'important, mais la polémique est très importante. Parce qu'au fond, l'école a une mission aussi, à part la transmission des savoirs, c'est de redonner, je crois, aux jeunes, aux enfants, le sens de l'appartenance à une collectivité. Alors cette collectivité, ça peut être l'école elle-même à travers des uniformes, à travers un certain nombre de choses, mais c'est surtout la nation à travers justement les couleurs, le lever des couleurs, l'hymne national, etc., qu'on est censé apprendre à l'école. D'autres mesures sont d'ailleurs possibles. Je me souviens, lorsque j'étais adjoint au maire dans ce 16e arrondissement et que Francis Piner en était le maire, on avait décidé de donner aux écoles, justement aux écoles primaires qui dépendent de la mairie, de leur donner, elles n'ont pas de nom souvent, c'était l'école de la rue ceci ou de la rue cela, on a décidé de leur donner des noms de compagnons de la libération. Parce que c'était une façon aussi de faire connaître à ces enfants, parfois même à leurs parents d'ailleurs, l'histoire de gens qui avaient combattu pour la France, qui avaient souvent donné leur vie, etc. Et une histoire héroïque dans une époque où on dit souvent que l'attitude française n'a pas été toujours très belle, mais là, il y avait de belles histoires. Vous parliez tout à l'heure de Louis XIV, de Napoléon, etc., à travers faire connaître l'histoire, à travers des personnalités fortes. Et bien là, c'était une autre façon, à travers des personnalités plus modestes, mais quand même absolument admirables également, une autre façon de faire ressentir aux jeunes leur appartenance à cette collectivité nationale. C'est pour ça que je pense que c'est une affaire importante. Bon, quant au ministre qui n'est pas d'accord, comment l'expliquer ? Je vous rappelle simplement, il est ministre de M. Macron, il est d'ailleurs lui-même d'obédience plutôt centriste, même s'il n'a pas d'étiquette politique très, très affirmée, mais M. Geffray, mais il est quand même d'obédience effectivement centriste. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron nous a dit au début de son mandat que la culture française n'existait pas. Donc quand on démarre sur des bases aussi viciées que cela, si la culture française n'existe pas, l'histoire française n'a pas beaucoup d'importance non plus.
On peut dire certainement qu'il peut effectivement y avoir ou une peur ou une non-volonté. Bon, la non-volonté, elle peut s'expliquer politiquement, mais est-ce que ce pourrait être la peur de voir une mesure inapplicable ? Et certainement, alors, la rendre obligatoire ou pas, mais il y a certainement de classes dans lesquelles... cette allégeance ne serait pas envisageable, certainement.
Non, mais il y a une peur de diviser, je pense, dans les écoles. Et c'est toujours pareil. La France est devenue un pays confetti avec des populations, des clans, des gens qui ne se parlent pas, qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et je pense que, de fait, lever un drapeau français dans certains territoires perdus de la République, comme on dit, c'est certainement pas une partie de rigolade. Et donc, le ministre démissionne.
Damien Chalamel.
Oui, vous vous souvenez de la devise de la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède ?
Non.
Qui vive France ? Donc on ne peut que saluer M. Ciotti et son initiative.
Pour remercier Damien Chalamel de ressusciter Déroulède.
Absolument. Voilà. Non, mais il y avait une barbe, notamment M. Ciotti. Non, mais moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que vous savez, c'est la fameuse analyse, mais qui est assez partagée, c'est que les ministres de l'Éducation nationale, depuis 1945, ne dirigent pas leur administration, mais ils la cogèrent avec des syndicats. Et je ne pense pas, au fond, que ce soit les Français, et même les Français de couleurs diverses et variées, que ça insupporterait que de saluer les couleurs, ou en tous les cas d'avoir les trois couleurs dans leur cours de récréation. Ceux que ça insupporterait plus, ceux que cela insupporte plus, c'est ceux qui cogèrent l'éducation nationale depuis 1945 et qui sont des syndicats marxisants, pour certains tendance anarchiste, et qui a une lourdeur de l'éducation nationale. Voilà, et qu'on le veuille ou non, ça reste un service public unifié. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas faire... ce que l'on veut, au prétexte qu'on est sur la commune de Nice ou les communes adjacentes. Non, c'est soit de Dunkerque à Nice ou à Bonifacio, soit rien du tout. Donc à mon sens, ça révèle plus, si vous voulez, l'impuissance.
On pourrait imaginer que la mesure puisse être possible de fait localement ou pas.
Oui, mais justement non, parce que l'éducation nationale, comme son nom l'indique, relève de directives d'instruction qui sont nationales. Donc un édile local dans une enceinte qui relève donc de l'éducation nationale ne fait pas ce qu'il veut. Mais bon, moi, à titre personnel, effectivement, on connaît cette initiative d'Espérance Banlieue, je trouve ça très bien.
Mais tutelle de l'enseignement primaire.
Oui, mais elles ne sont pas libres d'instituer, par exemple, un lever aux couleurs. Certainement pas.
Ça peut se discuter, je pense.
Eric Ciotti, visiblement, veut mettre...
Il voudrait, mais... je crois que c'est
entrer en contact avec le rectorat pour
essayer
de le mettre en place.
Le rectorat, il obéira à son ministère de tutelle.
En l'occurrence, oui. Mais d'ailleurs, c'est aussi un message politique qu'effectivement que Eric Ciotti envoie. Bon, ceci dit, on verra dans le futur, mais enfin, ces mâts sont censés être installés. En tout cas, il a annoncé l'installation de ces mâts. Bon, il l'a annoncé avant la possibilité de pouvoir y mettre le drapeau. Donc, qu'est-ce qu'ils deviendront ? Moi, je voudrais réagir rapidement sur ce que disait Gérard Gachet tout à l'heure. À Béziers, on a noté sur l'uniforme que le maire Robert Ménard avait décidé d'étendre cette mesure, donc qui reste facultative. Bon, vous avez économiquement la mairie qui débourse une partie de la somme. Mais vous avez, malgré ce caractère non obligatoire, 70% actuellement des familles qui ont décidé d'acheter voilà, le pack, les vêtements. Donc, il y a une demande.
En plus, l'uniforme, surtout lorsqu'il est à un prix abordable, comme c'est le cas, l'uniforme, il a d'autres avantages que de marquer l'appartenance à la communauté scolaire. Ça lutte contre l'individualisme et la surenchère des tenues qu'on constate souvent chez les jeunes à ce moment-là, et notamment la bataille des marques. Et finalement, cette bataille des marques qu'on constate dans beaucoup d'établissements, elle introduit elle-même une beaucoup plus grande inégalité sociale. Donc elle se traduit par une conséquence qui n'est pas une conséquence de liberté, mais qui est une conséquence d'inégalité. Donc c'est pour ça aussi que l'uniforme peut avoir du bon.
Il induit aussi une certaine tenue, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire que voilà, ça évite au chef d'établissement d'interdire le jogging, le short de foot, et de faire une police du vêtement un peu subjective. Quand il y a un uniforme, l'affaire est réglée pour tout le monde.
Absolument. Voilà, chers amis, je vous rappelle que je suis en compagnie de Damien Chalamel, avocat, Gérard Gachet, journaliste, Marc Baudrier, journaliste, que nous discutons de l'actualité. En seconde partie d'émission, nous évoquerons les révélations de Boulevard Voltaire sur le meurtre de Quentin Derenque. Jean Bexon, journaliste reporter de la rédaction, sera en notre compagnie. Nous aurons aussi notre traditionnel clin d'œil culture. Mais tout de suite, nous continuons à parler de l'actualité.
Restons courtois, Yves-Marie Sévillia.
Nous sommes effectivement avec vous, Marc Baudrier. Vous avez animé cette émission pendant un certain temps. Je voulais vous demander d'ailleurs, depuis quand vous avez animé l'émission avant qu'elle ne devienne Restons courtois sur ce nouveau format ?
Deux ou trois ans, je pense.
Quand même, oui. Donc oui. C'est conséquent.
Au moins, peut-être quatre même, oui.
En formidable.
Je sens bien.
Donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un spécialiste de la presse et des sujets économiques et que vous avez passé, si je ne me trompe pas, une vingtaine d'années au magazine Challenge.
Oui, 17 ans.
17 ans, absolument. 5 années chez Boulevard Voltaire. Vous avez donc dirigé, on venait de le dire, cette émission de Restons courtois. Désormais, vous êtes depuis quelques semaines rédacteur en chef délégué chez Valeurs Actuelles, rédacteur en chef du service économie notamment. Et vous êtes l'auteur de Les réseaux Cato, politique, société, économie, culture, un livre publié en 2011 chez Robert Laffont. Vous êtes aussi l'auteur d'une histoire trouble de la Ve République, Le poison des affaires, un livre publié chez Thaïlandier en 2015. Désormais, Marc, aujourd'hui, c'est à vous de passer sur le grill des questions, même si...
Ah oui, ça, c'est terrible.
Elles ont déjà commencé et Gérard et Damien sont prêts à se venger de tout ce qu'ils ont subi. Je voulais rapidement vous donner la parole, peut-être sur votre passé chez Boulevard Voltaire. Voilà, c'est une page qui s'est tournée. Et un petit peu sur votre... le travail, l'esprit que vous avez tenté d'insuffler dans ce média. Et peut-être la place particulière qu'il tient.
Écoutez, c'est gentil. Ce passage a été très marquant pour moi. Hein. 5 ans, c'est quand même pas tout à fait un passage éclair.
Un petit quinquennat.
Un petit quinquennat. Écoutez, j'étais évidemment pour moi c'était important parce que quand on quitte un titre comme Challenge qui est très installé où vous pouvez appeler partout, tout le monde vous répond très facilement et que quand vous arrivez à Boulevard Voltaire, évidemment, c'est assez différent. Hein. C'est un titre de combat, un média de combat, et je l'ai voulu, je l'ai fait par amour de mon pays et par envie d'être utile à ce pays à un moment où je pensais que vraiment ce type de média pouvait jouer un rôle dans le débat public et était non seulement utile mais indispensable aussi. Alors j'ai donné tout ce que j'ai pu. C'est vrai que j'ai apporté, je crois, l'expérience des grands journaux que j'avais connus auparavant et j'ai essayé d'installer beaucoup d'exigences dans dans les articles, dans les angles qu'on fait, tout ça c'est un peu technique, mais et dans la maquette aussi, puisque le boulevard Voltaire a changé un petit peu à l'œil nu, hein, et donc voilà, on a lancé aussi des formats un peu nouveaux, des grandes enquêtes qui n'existaient pas, enfin bon, il y a beaucoup de choses.
Une application.
Qui ont été faites. Une application, absolument. Tout cela, j'espère avoir contribué à avoir poussé Boulevard Voltaire un petit peu dans la cour, peut-être pas des grands, parce que ça, c'est long d'arriver dans la cour des grands, mais en tout cas des médias respectés, de ceux qui, dont on considère la parole, on considère que Boulevard Voltaire, je crois, aujourd'hui, on le voit bien parce qu'il y a des scoops ou des articles de Boulevard Voltaire qui ont
des informations exclusives,
de succès,
et d'ailleurs nous en parlerons tout à l'heure avec
voilà,
Jean,
hein,
sur l'affaire de Rank, très en pointe,
qui sont pris très au sérieux par beaucoup de grands médias, et je crois que ça c'est quand même le résultat de toute une collectivité, toute la petite équipe de Boulevard Voltaire qui s'est donné beaucoup de mal et qui, à force de faire des vraies enquêtes, d'interroger les gens, de faire des articles sérieux,
le cœur du journalisme,
sérieux, très appuyés, etc., ont réussi à se faire une place dans le concert des médias. Voilà.
Gérard Gachet.
Oui, une chose que je voudrais dire, alors là je parle en tant que simple lecteur de Boulevard Voltaire, puisque, sauf indirectement participant à cette émission, mais je ne fais pas partie de l'équipe rédactionnelle de Boulevard Voltaire, je suis frappé, mais j'ai quand même quelques dizaines d'années de journalisme derrière moi, je suis frappé du fait que c'est aujourd'hui un des rares médias qui m'apporte chaque jour des informations que je ne trouve pas ailleurs. Et des informations en plus vérifiées, sérieuses, argumentées, etc. Et il n'y a quasiment pas une journée où je ne me dis pas, tiens, ça, en feuilletant, en regardant le déroulé, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et je lis, je me dis, ah, mais ça, c'est une très bonne information, et je ne l'ai vu nulle part ailleurs, y compris dans des très grands journaux. Donc ça, je pense que c'est un des acquis de la période de Marc Baudrier, certainement, et de tous ses petits camarades, d'apporter des informations vraiment qui sont utiles, qui sont importantes et qu'on ne trouve pas ailleurs.
Vous avez toujours eu à cœur, Marc, de défendre le métier de journaliste. Le journaliste est un passeur.
Oui, exactement. Donc, j'ai le métier dans toutes ses composantes, c'est-à-dire d'abord le souci du lecteur et le respect du lecteur, donc par une qualité d'écriture, par la vérification très très précise et très exigeante des sources, des informations qu'on donne, et puis le souci aussi de notre pays, quoi. Donc apporter des informations qui ne sont peut-être pas diffusées partout, comme le dit Gérard, et une manière aussi d'aborder l'information par certains côtés qui seront peut-être aussi négligés par d'autres. Donc on a le sentiment, mais c'est vraiment aussi l'école de Gabrielle Cluzel, hein, j'y rends hommage, parce que c'est elle qui a porté, pas créé, parce que ça a été créé par Robert Ménard, Boulevard Voltaire, mais ça a été repris et porté par Gabrielle Cluzel. Moi, je l'ai pris en pleine évolution, j'ai accompagné cette évolution, j'ai essayé d'apporter ma patte aussi, mais elle va continuer après moi. Et donc, l'idée, c'est qu'on a conscience que c'est un média de complément, et donc, on n'a pas les moyens de la rédaction du Monde ou de la rédaction du Figaro avec 150 ou 200 journalistes, ça c'est clair, mais on peut avoir un œil et un œil acéré pour regarder dans la masse d'informations qui nous tombent dessus et qui sont parfois assez consensuelles, ce que les autres médias n'ont pas vu, n'ont pas pris, n'ont pas développé, et essayer de le mettre en valeur. Et ça, c'est un peu le travail et l'honneur d'ailleurs du journalisme et du journaliste en général, et de Boulevard Voltaire en particulier. On essaiera de... J'essaie aussi de le faire, bien sûr, déjà à Valeurs Actuelles.
Alors justement...
Dans un autre format, magazine.
Absolument. Parlons désormais du nouveau défi qui est le vôtre. une continuation dans votre parcours professionnel. Vous avez intégré cet été la rédaction du magazine, dont vous êtes le rédacteur en chef délégué, Tugdual Denis étant le directeur de la rédaction. Donc un magazine, hein, je le rappelle, qui a été racheté par un trio d'investisseurs, Benjamin Lacombe, Pierre-Edouard Sterrin et Alexis Caude, la famille Caude. Quels sont les défis aujourd'hui, Marc Baudrier, qui attendent Valeurs Actuelles dans un terrain journalistique à droite, assez mouvant?
Écoutez, le défi, je crois que c'est un... Alors, je parle avec prudence parce que encore une fois, on est en train de travailler beaucoup sur le produit, tout n'est pas abouti, je ne suis pas le grand patron de Valeurs Actuelles, j'en suis le numéro 3 de la rédaction, donc voilà, il faut rester à sa place. Mais pour moi, en tout cas, je crois que Valeurs Actuelles a un rôle à tenir en tant que grand magazine de la droite française. C'est-à-dire que la presse magazine, elle a une mission particulière. Vous voyez, le quotidien, il est vraiment sur l'événement. Il doit retracer ce qui s'est passé dans la journée, donner une nourriture intellectuelle quotidienne à ses lecteurs. Le magazine peut et doit prendre du recul, doit regarder l'actualité avec un petit peu de décalage. Donc ça doit être un bonheur de lire d'abord une belle écriture. C'était le cas du groupe Nouvel Observateur où j'ai passé de longues années. Il y a eu beaucoup de défauts, ce groupe Nouvel Observateur et le journal, j'en partageais pas la ligne, vous vous en doutez un peu. Mais il avait cette très grande qualité d'avoir le souci d'une écriture, d'une belle écriture. Ça faisait vraiment partie des qualités qui étaient cultivées dans ce groupe, et Challenge faisait partie, dont vous avez parlé, faisait partie de ce groupe, et partageait cet amour de l'écriture magazine, du soin, du respect du lecteur. Et je crois que ça fait partie des atouts d'un magazine qu'il doit et qu'il peut apporter à droite. En ce moment, c'est très utile de prendre un petit peu de hauteur et de raconter les choses, de raconter les gens, de raconter les grandes évolutions, de participer aux grands combats qui ont fait la presse de droite et qui vont la faire demain, parce que Dieu sait s'il y en a des combats à mener, et beaucoup. Et voilà, donc il y a une spécificité du combat de cette presse magazine qui, je crois, justifie qu'on puisse s'investir et faire quelque chose de beau avec ça.
Sachant que le monde de la lecture évolue, les Français lisent moins, s'informent moins, différemment, donc la place de la presse écrite évolue. Y a-t-il une façon de consommer un magazine imprimé différente d'une lecture qui peut être plus ou moins rapide sur un téléphone? Gérard Gachet, Marc Baudrier, parce que Gérard Gachet a aussi une sacrée expérience en la matière, et notamment à Valeurs Actuelles.
À Valeurs Actuelles, dont j'ai eu l'honneur, parce que c'était un honneur et le plaisir, de diriger la rédaction pendant 7 ans. Alors, c'était il y a longtemps, c'était entre 2000 et 2007. Mais dans ce qu'a dit Marc Baudrier, il y a deux choses qui m'interpellent et qui me frappent et avec lesquelles je suis parfaitement d'accord. Il a d'abord parlé du souci de l'écriture. Lorsque j'étais directeur de la rédaction, on nous disait très souvent « Ah, Valeurs Actuelles, on n'aime pas forcément vos idées, on n'est pas d'accord avec tout ce que vous écrivez, mais voilà un journal bien écrit. » Et les gens sont sensibles, et je pense que ça doit continuer, même si l'écriture évolue en elle-même. Mais cette qualité, il ne faut pas la relâcher, parce que ça reste un atout qui amène des gens à s'intéresser d'abord à la forme et puis ensuite peut-être au fond. Et puis ensuite, Marc Baudrier a parlé de magazine de droite. Et je crois que c'est très important que ce journal soit un journal de droite, je dirais presque même des droites, parce que historiquement, depuis que Raymond Bourgine l'avait créé, je crois que c'était en 1966 ou 67, ça a toujours été le journal des droites. Aussi bien des droites libérales, conservatrices, droite plus nationale. Ça a toujours été un journal de droite. Et l'erreur à ne pas commettre, mais je sais très bien que vous ne la commettrez pas, l'erreur à ne pas commettre, c'est de mettre ce journal derrière un homme politique ou derrière un parti. Parce que là, il y a une époque où il y a eu une tentation de ce genre. Ça ne se passe pas toujours bien. Pour quel soit le journal, d'ailleurs, parce que les gens n'attendent pas un journal de parti, on sait très bien que ça perd toute crédibilité très rapidement. Donc, rester à la fois le journal de la droite ou des droites et le journal bien écrit, avec bien sûr les meilleures informations possibles, mais là-dessus, on vous fait parfaitement conscience, cher Marc.
Je me permets de rebondir en faisant évoluer sur un sujet sur lequel, effectivement, Marc Baudrier a signifié que vous gardez une sorte de réserve. Gérard Gachet, vous évoquez un journal de droite, mais aujourd'hui, pour simplement revenir rapidement sur la question de la collaboration de Charles Sapin à une émission hebdomadaire le dimanche sur France Inter, la levée de bouclier invraisemblable que cela provoque. Je voudrais quand même à cette occasion citer le collectif, les syndicats de Radio France qui opposent un refus catégorique à l'arrivée de Charles Sapin à l'antenne, car son hebdomadaire porte, je cite, des valeurs non compatibles avec celles du groupe public. Alors il faudra nous expliquer quelles sont ces valeurs compatibles. Et alors, je cite encore, le pluralisme ne peut servir de prétexte à la légitimation des discours de haine condamnables ou condamnés sur nos antennes. Comment est-ce qu'on peut arriver d'une telle partialité invraisemblable ?
Il y a une autre phrase aussi que le Figaro a citée d'un responsable syndical de Radio France qui a dit, je le cite pour être très exact, il a dit « On peut prouver qu'on est pluraliste sans aller jusqu'à Valeurs Actuelles ». C'est quand même extraordinaire. Valeurs qui n'a jamais été un journal d'extrême droite, c'est un journal de
droite.
Et quand
bien même. Et quand bien même. Si toutes les sensibilités sont censées être représentées par le service public, n'est-ce pas sa vocation ?
Oui, tout à fait. Et surtout que c'est un éditorialiste parmi un certain nombre d'autres qui viennent de l'Express, du Nouvel Obs, enfin de l'Obs, et d'autres journaux pas du tout marqués à droite. Mais cette phrase, on peut être pluraliste sans aller jusqu'à Valeurs Actuelles, ça montre bien un degré de sectarisme quand même tout à fait hallucinant.
Et je voudrais aussi, moi j'ai trouvé ça très intéressant, citer Vincent Mellet, directeur éditorial de Radio France. Alors il a écrit, parce que du coup, Sybille Veil l'a évoqué, la direction de France Inter et de Radio France maintient sa position.
Sybille Veil qui est la présidente de Radio France.
Absolument, merci Marc. Mais alors, le message envoyé par la direction... on va garder Charles Sapin, mais vraiment, on bat notre coulpe en maintenant. En même temps, il faut prendre 1000 pincettes. Et voilà, alors voilà comment termine le directeur éditorial de Radio France. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme, à l'islamophobie, à la haine, à la remise en cause des droits fondamentaux, au climato-scepticisme. Il n'y aura aucune tolérance pour Charles Sapin comme pour tous. Et si Valeurs Actuelles devait retourner à ses démons, nous en tirerions les conséquences sans délai. Mais on ne condamne personne avant qu'il ait parlé. Donc effectivement, Charles Sapin reste à l'antenne, mais bon, sous couvert de tous ces éléments qui sont vraiment vraisemblablement dans sa besace intellectuelle. Damien Chalamel.
Non, mais merci de nous citer la prose de nos amis de Radio France, parce que c'est extrêmement drôlatique. Alors moi je leur proposerai la prochaine fois Jérôme Bourbon à la place de Charles Sapin pour
tout en nuance aussi.
Pour éprouver cette passion pour le pluralisme ces journalistes en chambre font preuve.
Gérard Gachet.
Puisque c'est la directrice de Radio France qui a dit qu'elle serait impitoyable avec tout dérapage,
Je citais, oui. C'était Vincent Mellet.
Mais ils peuvent montrer très rapidement qu'ils sont impitoyables. Parce que nous avons ces jours-ci à l'antenne de Radio France des humoristes, entre guillemets, qui se sont livrés à des exhibitions extraordinaires. L'humoriste Jessé a dit « Oh, c'est bien, Charles Sapin, ça diversifie les points de vue. C'est bien, il faut inviter les néo-nazis pour qu'on ait leur version de l'histoire. » Le même jour, dans Zoom Zoom Zen, un autre collègue humoriste de Radio France, de France Inter, qui s'appelle Améziane, il a attaqué, lui, le député Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy, sur son physique, en disant « Regardez, c'est un rat, mais qui n'a pas achevé sa mutation » du rat à l'homme qui n'est pas encore parfaitement complet. Et en plus, il est attaqué également sur son orientation sexuelle. Je croyais qu'à gauche, au moins, on respectait ce genre de choses. Non, il est attaqué aussi là-dessus. Et enfin, ce matin même, sur France Inter, tout ça a été soutenu par un de leurs collègues qui s'appelle Merwan Ben-Lazare, qui a déclaré bah, « Tout ça, c'est bien parce qu'on est là pour perturber les fachos bah, ». Tout ça a été dit sur l'antenne de France Inter ces jours-ci. On attend de voir les mises au point et les sanctions éventuelles qui vont être prises par la direction. Parce que ça, si ce n'est pas de sortie en dehors des routes de l'objectivité et du normal, et de la normalité, bah on est complètement à côté de la plaque.
Bon, on va suivre avec attention cette situation parce que bon, voilà, une grève effectivement est annoncée. On sait que voilà, la gauche et l'extrême gauche sont capables d'aller loin, mais cette situation est pas forcément préoccupante parce qu'elle n'est plus surprenante. On connaît voilà totalement la situation, mais elle est quand même ubuesque, elle est proprement scandaleuse. Et donc nous rappelons effectivement à ce micro notre soutien à la rédaction de Valeurs Actuelles, Marc Baudrier, Tugdual Denis et toute l'équipe, Charles Sapin bien évidemment, face à ce combat incroyable de France Inter, de Radio France, contre la liberté d'expression et contre le pluralisme que tous les Français sont en droit d'attendre du service public. Voilà, nous allons parler des incendies maintenant rapidement qui ont ravagé la France.
Restons courtois avec Yves-Marie Sévillia et Boulevard Voltaire.
Voilà, chers éditeurs, je vous rappelle que nous sommes avec Gérard Gachet, Damien Chalamel, avec notre invité Marc Baudrier, rédacteur en chef délégué de Valeurs Actuelles. Et je voulais revenir un petit peu sur l'événement du drame des incendies. Hein. Je rappelle 45 000 hectares brûlés dans les Landes, 6 500 dans le Var, plusieurs centaines d'habitations détruites. Et les assureurs estiment le coût des dommages à près de 500 millions d'euros pour environ 25 000 sinistres. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Marc Baudrier, dans cette actualité? Est-ce que c'est l'incurie de l'État? Est-ce que c'est la détresse de la population? Est-ce que c'est la façon dont le pouvoir fanfaronne alors qu'on a l'impression qu'il va totalement à la dérive et qu'il est incapable de protéger la population et ses biens?
Oui, évidemment, le malheur de la population, j'ai été touché comme tout le monde et, par ce désastre, et puis le désastre naturel aussi, hein, ces paysages calcinés, évidemment, tout ça est très impressionnant et désolant, mais je crois que moi, ce que je retiens de cet épisode, quand même, c'est le bûcher, sans jeu de mots, des écologistes, qui, eux, avaient plaidé pendant des années contre les retenues d'eau, parce que c'était pas bien, c'était pas gentil de faire des retenues d'eau, vous savez, les fameuses bassines, on pense aux manifestations de Sainte-Soline, 50 gendarmes blessés par des militants d'ultra-gauche anti-retenue d'eau, donc, puisque c'est de ça qu'il s'agissait. Et c'était en 2022, je crois, ou 2023, 2022, il me semble-t-il. Des écologistes vont debout contre le nettoyage des forêts, hein, puisqu'il ne fallait surtout pas éliminer les ronces, c'était pas gentil pour les petits animaux, etc. On sait que tout cela, que donc la base, l'herbe, les ronces, tout ce qui est au sol...
Le code de l'environnement se superpose au code forestier. Exactement. Avec toutes les contraintes que vous indiquez.
Voilà, donc interdit de nettoyer les forêts à telle période, de les nettoyer tout court, etc. Tout
de ça, supprimer le bois mort, s'enflamme très bien.
Tout ça a beaucoup joué, évidemment, dans la propagation de l'incendie qui s'est propagé par le sol. Et donc, il a fallu attendre ce désastre pour que, finalement, les agriculteurs parviennent à expliquer qu'ils ont besoin d'eau, qu'ils peuvent la récupérer l'hiver pour l'utiliser l'été, que accessoirement ils sont là aussi pour aider les pompiers et pour apporter de l'eau quand ils en ont, quand les écologistes leur ont permis d'en avoir. Et donc tout cela montre quand même, je crois, le désastre de l'idéologie verte et le côté complètement fou.
L'écologie punitive.
De cette écologie punitive, parce qu'il y a évidemment une écologie de bon sens qui est tout à fait louable, mais il y a une écologie d'ultra-gauche verte qui, elle, je crois, a participé, en tout cas, à son examen de conscience à faire après ce désastre estival.
Damien Chalamel, est-ce que vous vous souvenez du surnom de notre ministre de la transition écologique, Madame Monique Barbu, surnom qui lui a été dévolu lors de cet été, Gérard Gachet?
Je me souviens de sa phrase extraordinaire, où elle a quand même déclaré devant une assemblée, pour se prononcer contre la climatisation en ville, elle a dit « Est-ce qu'on n'a jamais vu une climatisation éteindre un feu de forêt ?» C'est quand même la phrase la plus intelligente qu'on ait entendue depuis des années et des années. Mais sinon, ce n'est pas son surnom. Non.
Marc Baudrier, vous vous souvenez?
Non.
Madame Transat.
Ah oui,
c'est vrai. Ça va vous revenir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Madame le ministre, alors que la France était un brasier géant, est partie dans sa résidence de Sainte-Maxime, les doigts de pied en éventail, pour suivre, voilà, en télétravail, la crise de la forêt, parce que elle était vexée, elle avait, souvenez-vous, annoncé sa démission à la suite du vote de la loi d'urgence agricole, sous la contrainte du président de la République.
Elle est bien révélatrice de ces vers dont je parle, ainsi qu'un autre dont on n'a d'ailleurs absolument pas entendu parler, qui s'est caché derrière le rideau de fumée de ces incendies, qui est Pascal Canfin, qui est le monsieur le désastre écologiste, qui a fait passer des milliers de lois défavorables aux agriculteurs, qui les ont entraînés à la ruine, et qui tous ces gens-là auraient, je crois, des comptes à rendre.
Moi, si je peux ajouter un témoignage, moi j'étais les 25-26 juillet à Bordeaux et dans sa région, et clairement, dans la ville même de Bordeaux, on avait un horizon complètement bouché, saturé, avec des cendres, donc des particules dans l'air, qui tombaient littéralement sur vos vêtements, et on mesure que c'est la question écologique, la question de ces incendies, ne concerne pas que les agriculteurs, que les forestiers. Non, là c'était susceptible d'avoir un impact direct. Et d'ailleurs, ça en a eu
un certain mesure. Ça atteigne la ville.
La ville, bien évidemment, la ville et les sites industriels
Madrid, Espagne,
qui sont aux portes de Bordeaux. Et parmi les aberrations écologiques, notamment, il y avait le refus de ce que certains ont fait d'ailleurs d'autorité sur la presqu'île du Cap-Ferret, c'était de faire des coupe-feux. Donc faire des saignées à coups de tronçonneuse
forêt. Les initiatives privées ont été tolérées pour une fois.
Oui, parce que les pouvoirs publics étaient incapables de chercher des noises à Monsieur Benoît Barthereau,
voilà,
parce que c'est lui
à qui on fait grief d'avoir pris les mesures nécessaires pour éviter que l'incendie se propage. Vous voyez, à quel point
on est tombé sur la tête. Je croyais que finalement ça avait été non.
Pour l'instant, oui, mais enfin, il est bien sûr qu'il est toujours inquiété. Et ce que disait Marc est fort juste, c'est-à-dire effectivement la critique écologiste qui consiste à considérer la nature, à la mettre comme une espèce, à déifier la nature, étant précisé qu'en plus cette forêt est extrêmement artificielle. Ça c'est un autre débat, la forêt des Landes.
Absolument.
Est récente.
Rappelez-moi de Napoléon III.
Oui, je crois, Napoléon III, a étendu à ce point-là. Elle existait, mais pas dans cette dimension-là.
Alors, pendant que la France brûle, M. Macron fait du jet ski. Bon, c'est juste après. C'était l'autre élément qui m'a aussi marqué cet été. Marc Baudrier, qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous avez vu cette couverture de Paris Match? Et est-ce que peut-être vous même étiez en vacances? Est-ce que vous estimiez que le président de la République a lui aussi, certes, le droit à des vacances?
Oui, non, écoutez, ça m'a inspiré l'idée qu'il ne manquait pas d'eau, puisqu'il faisait du jet ski, ni d'air, parce qu'il faut qu'il y ait un certain culot, mais c'est notre ami Macron. C'est vrai que dans une crise aussi importante, alors je sais bien que le président Pompidou demandait qu'on ne le dérange sous aucun prétexte le week-end, par exemple, mais là, en l'occurrence, c'est une crise quand même majeure, donc il doit être au service et au chevet de la nation, quand il y a des dizaines de milliers de compatriotes qui sont déplacés, qui interrompent leurs vacances, que des villes entières sont menacées par les flamme, c'est quand même assez extraordinaire d'aller faire du jet ski à l'autre bout de la France. Et on est quand même dans une période à ce moment-là de crise intense, et moi ça me choque que le président de la République ne soit pas aux côtés des Français dans ces moments-là.
Gérard Gachet.
Surtout que, bon, que le président de la République prenne des vacances, ça ne
oui,
gêne pas.
Oui, en soi, c'est pas...
Mais quand on regarde ces photos du jet ski, manifestement, quand on connaît les moyens de sécurité qu'il y a autour du président de la République, c'est des photos qui ont été acceptées. Je ne dis pas qu'il a vu le résultat, mais le principe même que ces photos soient prises a été accepté. Ce n'est pas des photos volées. Bon. Et donc, je me dis, mais... Surtout en ce moment, effectivement, compte tenu de ce qui se passait pendant l'été, mais même d'une façon générale, le président de la République qui accepte qu'on fasse des photos de lui sur son jet ski, je trouve qu'on est dans une conception de la présidence. Je ne demande pas qu'on en revienne au général de Gaulle, même si à travers les excellents films que je suis en train de voir, c'est passionnant ce qui s'est passé. Mais même sans revenir à l'époque du général de Gaulle, je trouve qu'on arrive à une conception totalement d'image et non plus de fond, de forme et pas de fond sur ce que doit être la fonction présidentielle. Et ça, quelque part, ça me gêne beaucoup.
Damien Chalamel.
Mais moi, c'est aussi ce que je retiens de ces 10 ans de macronisme, c'est le narcisse. Et j'engage vivement nos auditeurs, ceux qui ne l'ont pas déjà fait, par exemple, à aller sur la page Instagram de Soazic de la Moissonnière, je crois, qui est la photographe officielle de Sa Majesté Emmanuel Macron. Et ils seront absolument sidérés de voir à quel point Emmanuel Macron se prête à toutes sortes de mises en scène. Alors vous le voyez, en maillot de bain, en train de boxer, en train de courir, en train de serrer des mains, faire des papouilles... embrasser, qui veux-tu, que voilà. Ça témoigne effectivement de la dimension du narcissique du personnage, de son absence totale de surmoi. Et 10 ans après, on est toujours sidéré et il n'y a jamais d'inflexion. Hein, on ne sent jamais chez le personnage, il ne l'est jamais ébranlé. Il continue. Voilà, sur sa lancée. Bon, bah écoutez, c'est une constance du personnage.
Absolument. On ne pourra pas lui ôter ce mérite.
Et c'est vrai que c'est curieux qu'il ne se dise pas que ces images d'un président en jet ski, ça coûte quand même... c'est quand même pas le loisir de Madame Tout-le-Monde, ne va pas choquer une partie des Français. Quoi. C'est quand même, il y a quand même une impudeur et un côté fier à bras.
Une forme d'obscénité et
de vulgarité qui est quand même assez impressionnante.
Et très désagréable.
Et désagréable, on est d'accord.
Alors dans une seconde partie d'émission, je ne fais pas de jet ski, voilà. J'ai des vacances beaucoup plus modestes. Je fais des randonnées dans le Tyrol, vous voyez.
Voilà.
Ça nous coûte moins cher. Ça a beaucoup plus de classe.
La paire de croque-nos coûte moins cher que la location du jet ski.
Voilà. Je ne mets pas la tenue traditionnelle pour marcher, je vous rassure. Allez, dans une seconde partie d'émission qui approche... dangereusement, nous recevrons Jean Bexon qui nous parlera du meurtre de Quentin Derenck et des révélations qui sont les siennes. Nous aurons ensuite un clin d'œil culture traditionnellement et nous nous retrouvons tout de suite.
Restons courtois, Yves-Marie Sévillia.
Voilà, alors je vous rappelle que nous sommes avec Gérard Gachet, journaliste, Damien Chalamel, avocat, que nous recevons Marc Baudrier. Nous avons encore un petit temps ensemble et j'aurais bien aimé vous entendre, Marc Baudrier, sur la réunion du MEDEF, le grand raout qui a eu lieu le 27 août à l'occasion... duquel les candidats à la présidentielle ont pu exposer un petit peu leur programme. Vous êtes responsable du service économie, je le rappelle, de Valeurs Actuelles, rédacteur en chef délégué du magazine. Quel regard vous portez ? Alors, bon, prenons la candidate de Marine Le Pen, parce que c'est certainement celle qui nous intéresse le plus compte tenu de l'importance des sondages qui est la sienne. Quel regard vous portez sur sa prestation ? Est-ce qu'elle a été à la hauteur ? Elle était attendue ? Elle est toujours attendue sur ces sujets économiques sur lesquels, facilement, on va avoir tendance à la presse et le monde politico-médiatique médiatique à dénigrer ou son programme ou sa capacité à diriger les finances de la nation.
Oui, alors c'est vrai que j'y étais, hein, à Roland-Garros, ce jour-là.
Ah, mais voilà, une information formidable. Voilà, c'est d'un chic.
J'étais sur place.
Marc est toujours sur le cours central.
Oui, enfin, en l'occurrence, c'était très impressionnant parce que on était très très haut, donc on voyait les candidats en tout petit. Il y avait la moitié du cours central ou les deux tiers qui étaient très largement pleins, 6000 personnes sur place.
6000 entrepreneurs, chefs d'entreprise.
C'est ça, journalistes. Vraiment beaucoup de monde. Et on voyait, pour ceux qui étaient tout en haut comme moi, en tout petit, les candidats au sol. D'abord, avant d'en venir à Marine Le Pen, moi, j'étais frappé par le côté très libéral. Alors, on me dirait que, évidemment, chacun s'adapte au public qui était là et qui était plus libéral qu'à la fête de l'humanité, sans doute. Mais il y avait des propositions, quand même, assez en rupture de la part de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe, de Bruno Retailleau.
Bruno Retailleau qui était assez applaudi, j'ai trouvé.
Assez applaudi, mais qui s'est un petit peu éteint à la fin du débat. Et c'est vrai que le débat durait très longtemps, il avait l'air fatigué, Bruno Retailleau, et à la fin, on l'entendait moins. Il y avait quand même beaucoup de propositions assez intéressantes et assez en rupture de la part de ces candidats qui apparemment ont quand même compris les mots MAUX de la France.
Est-ce que c'est nouveau?
Comment ?
Est-ce que c'est nouveau, cette compréhension ?
On a l'impression
qu'ils font quand même souvent un discours, non ? Vous trouvez que cette prise de conscience est significative ?
Oui, qu'il y avait quand même des choses assez efficaces dans les propositions des différents candidats qu'on avait pas l'habitude d'entendre, en tout cas parmi les candidats du centre. Alors après ça, est-ce qu'ils sont crédibles et est-ce qu'ils le feront ? C'est une autre question, c'est une bonne question. Quant à Marine Le Pen, elle était attendue au tournant, évidemment, puisque c'était tout le monde nous dit, notamment à droite, Bruno Retailleau, les partis du centre, etc., qu'elle est communiste, qu'elle est absolument pas crédible, qu'elle est nulle en économie, etc., etc. Vous connaissez ce discours par cœur, donc elle était vraiment attendue au tournant, honnêtement, on a pu le lire d'ailleurs assez largement le lendemain, elle a tenu la route, elle a tenu le choc du débat, avec des propositions qui étaient elles aussi très libérales, pour toutes les propositions, sauf une, qui est sur la retraite, où là, elle a tenu à sa retraite à 62 ans, après 42 années, je ne sais plus.
62 ans, c'est 42 ans de cotisation.
C'est ça, 42 ans.
Et 60 ans, si vous avez commencé à 20 ans, en ayant cotisé 40 ans.
Voilà, c'est ça. Elle a tenu sur ce dispositif des retraites, qui est évidemment qui est un marqueur pour son électorat, mais sur le reste, il y a eu quand même, je crois, pas mal d'évolutions, et d'évolutions dans le sens d'un grand libéralisme. Elle a été assez applaudie des entrepreneurs.
Je pense que ce sera difficile. Marine Le Pen a été
applaudissement un peu gêné au début et puis beaucoup plus net à la fin, ça dépendait des moments, mais quand même, et donc je pense que ça sera difficile et de plus en plus difficile dans cette campagne de qualifier Marine Le Pen de communiste comme le fait avec un peu de facilité le centre macroniste. Voilà.
J'ai noté que Sahak Nafo avait aussi... l'avait un peu mise vraisemblablement dans le bain de Jean-Luc Mélenchon, parce que même panier, il y avait des propos trop, je cite, étatistes,
oui,
avait-elle souligné.
En l'occurrence, moi, j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir une candidate étatiste. Voilà.
Non, elle a beaucoup évoqué la baisse du train de vie de l'État, et puis pour les entrepreneurs, de baisser dans les impôts
de production,
les charges,
les baisses des charges,
les
etc.
normes,
tout, les normes, la folie normative. Des normes, tous ces thèmes très libéraux ont été abordés et soutenus de manière très forte par Marine Le Pen. Voilà, donc dont acte, hein.
Damien Chalamet. J'aimerais corriger Marc, je ne pense pas que Marine Le Pen soit libérale, mais elle est anti-étatiste, c'est certain. Ce qui n'est pas vraiment la même chose.
Avec le mot libéral, plein de conceptions et d'ambiguïté.
Et par ailleurs, je note que c'est quand même la seule, à ma connaissance, la seule candidate, ou parmi les candidats potentiels, à être fille de chef d'entreprise. Ce qui n'est pas... parce que Jean-Marie Le Pen, avant d'être député européen, il a été également national, mais essentiellement européen, c'est un chef d'entreprise.
Oui, enfin, la SERP, mais son entreprise n'était pas non plus...
C'était une PME,
oui. C'était pas sûr qu'elle était remarquablement gérée et qu'elle se portait si bien que ça.
En tous les cas, elle a permis de faire vivre un homme, une famille et quelques salariés.
Oui.
Donc ce qui n'est pas négligeable. Ce que je veux dire par là, c'est que elle a vécu, elle aussi, dans cet environnement d'un homme qui n'était pas ni fonctionnaire, ni cadre d'un grand groupe. Qui incarnait lui-même cette indépendance. Et d'ailleurs, il avait commencé sa carrière politique avec les indépendants de M. Pinet en 1956. Donc il y a une vraie continuité, je pense, dans la culture économique et
avec les cultures personnelles.
Il avait commencé avec Poujade.
Et de voilà, Poujade, bien sûr.
En 1956. Poujade, député de France.
Et voilà, donc il y a une vraie continuité chez la famille Le Pen, de ce point de vue-là.
Gérard Gachet, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, je me posais une question. Est-ce que le virage, je ne sais pas s'il faut dire libéral ou anti-étatiste, l'évolution de Marine Le Pen que vous constatez, et Marc aussi, est-ce que c'est dû également, est-ce que ça pourrait être dû à un accord avec Jordan Bardella, qui semblait être, lui, sur une ligne, effectivement, plus libérale qu'elle au départ? Donc est-ce que cette évolution de Marine Le Pen correspond à un accord pour garder le Rassemblement National bien uni et bien soudé dans cette campagne?
On fait de ces petites divergences finalement une espèce de bombe en puissance qui pourrait générer un divorce à la Le Pen-Maigret, vous vous souvenez?
Il y a quand même eu un conseiller économique de Jordan Bardella qui a été écarté sèchement.
Certes.
François Durvy.
Certes, mais pas pour des raisons complètement de fond, me semble-t-il. Par ailleurs, je me demande si on ne peut pas voir quand même dans ces petites divergences, parce que c'est quand même des divergences relativement subtiles, quand même, une manière de ratisser large, parce que évidemment, ça permet, il y en a un qui ratisse un peu plus à droite dans les milieux économiques, et l'autre un peu dans les milieux populaires qui autrefois votaient à gauche, ça permet de faire un râteau assez large, cette espèce de tandem, et je ne crois pas, je ne vois pas, en tout cas de manière très nette, de bras de fer entre les Jordan Bardella et Marine Le Pen,
si l'évolution de Marine ne correspond pas à, au contraire d'un bras de fer.
C'est ça.
Un
rapprochement, vous avez raison, il y a une espèce de fusion sur le...
Mais moi, je ne pense pas qu'elle ait évolué. Elle est restée fidèle à elle-même. C'est d'ailleurs ce que certains apprécient.
Elle a évolué dans un sens un peu plus libéral quand même.
C'est parce que vous l'avez écouté ce jour-là. Mais moi, je n'ai pas l'impression du tout qu'elle ait évolué. Elle a toujours été très critique de l'étatisme. Elle a elle-même d'ailleurs professionnellement évolué dans un milieu libéral au sens professionnel du terme. Elle exerçait une profession libérale et indépendante qui était celle d'avocat.
La même que la vôtre.
Exactement. Et en plus, dans un cabinet indépendant, une petite structure. Donc comme tous les avocats, elle a payé ses charges URSSAF, son loyer.
Oui, mais ça paraissait beaucoup moins net, notamment lors de ses débats avec Emmanuel Macron. Cet ancrage libéral, au contraire, elle revendiquait, mais elle n'a peut-être pas réussi à le
salarier.
Je pense que c'est un problème de communication qui lui a fait peut-être défaut dans certains débats.
Moi, je note qu'on parle des divergences, mais aujourd'hui, Marine Le Pen est une candidate avec Jordan Bardella qui propose aux Français dans l'élection à venir un tandem. Donc même s'il y a des divergences, et elles sont possibles, est-ce que le monde médiatique a tendance à les exagérer? C'est ce que vous semblez souligner, Marc Boudrier. Aujourd'hui, potentiellement, Jordan Bardella est le Premier ministre de Marine Le Pen. Donc les Français, puis, qu'on nous fasse pas croire, on passe notre vie à avoir un monde politique totalement divisé, opposé, qui s'entretue au sens figuré du terme, politiquement. Bon, aujourd'hui, si on a des divergences, elles semblent relativement
relative et des... La question, c'est certainement une cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais sur la question du voile, sur là, on l'a vu, sur la question de l'Ukraine et de la Russie, certainement, pour être totalement crédible et ne pas prêter le flanc aux attaques, il doit y avoir une cohérence dans les propos. Des nuances sont possibles, mais certainement que l'un et l'autre doivent parler d'un même...
C'est le cas, il n'y a pas d'opposition frontale entre les deux, de bras de fer.
Non, mais sur la question du voile, on nous a dit amende, puis pas amende, oui, puis référendum.
Il y a parfois des petits frottements sur la ligne, mais c'est pas, on n'a pas deux dirigeants de partis dont les lignes sont très opposées.
Il y a pas non, mais ils font ce qu'il faut.
De bras de fer, quoi.
Le langage de Marine Le Pen va dans ce sens, ils font ce qu'il faut. Pour éviter les frottements.
C'est ça.
Pour montrer.
On n'est pas chez LR. Vous n'avez pas d'un côté Madame Pécresse, Monsieur Retailleau, Monsieur Copé qui tirent.
Copé, chacun. Il n'a plus beaucoup d'importance.
C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Ou Monsieur Lisnard.
Il n'est plus chez LR.
Monsieur Bertrand.
Chez LR, c'était vraiment des querelles d'hommes, de personnalités très violentes.
Oui, mais qui
avec très peu de fond.
Très peu de fond.
Alors que là, il n'y a pas de querelle d'hommes. Ouais. Il y a des petits éléments de fond subtils de temps en temps. Mais non.
Non, mais je suis d'accord avec vous sur les querelles d'hommes. D'ailleurs, quand il ne reste plus d'idées, il reste de l'hommerie. Là où il y a de l'homme, n'est-ce pas? Mais il y avait aussi derrière ces querelles de personnes des inflexions idéologiques entre un Retailleau et une Pécresse et un Bertrand.
Le bilan des Républicains sur notre émission, mais ça va être passionnant parce qu'on a toute l'année pour disséquer les programmes des uns et des autres, les tensions, et là, on aurait pu parler très longuement, mais le temps nous est compté. Marc Baudrier, vous reviendrez.
Si vous m'invitez, avec beaucoup de joie.
Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette émission de transition entre votre direction et la mienne. C'était un plaisir de vous avoir avec nous.
Bravo, je vous confie à nos auditeurs et je les accompagne, je ne les abandonne pas, je vous écouterai avec beaucoup d'intérêt et d'attention, comme d'habitude.
Je rappelle que vous êtes donc rédacteur en chef délégué désormais de Valeurs Actuelles, en charge du service économie, et nous allons suivre avec attention l'évolution de Valeurs Actuelles, désormais avec une plume comme la vôtre dans ses rangs.
Merci Marc. Merci aux auditeurs, merci cher Gérard et Damien Chalamel, je vous regretterai.
Dans un instant, nous allons parler des révélations sur le meurtre de Quentin Derenck, mais avant cela, une courte pause.